quitter, mais limite à deux doigts d'arracher avec mes dents mon micro à cause de mes chers camarades qui m'ont posé un lapin pour l'émission. Là, je dois avouer que
c'est
ça
vrai,
m'a
zénifié. C'est magnifique. Non, j'adore.
C'est cool.
Deux chansons de suite
vraiment,
comme ça, c'était génial.
Et c'est cool. Franchement, une prog là aujourd'hui, une programmation d'enfer. Alors voilà, évidemment, j'ai retrouvé la feuille. Quelqu'un me l'avait chourée. Décidément, c'est un complot. Oui, c'est un complot.
On appelle ça la mauvaise foi.
Quoi ? Enfin bon, passons. Donc, l'histoire des transsexuels en France, édition H et O. Ça a été écrit donc par Maxime Foerster, F-O-E-R-S-T-E-R, si jamais vous avez envie d'aller sur le net. C'est un doctorant de l'Université du Michigan. Il a collaboré au dictionnaire de la pornographie, au PUF, aux presses universitaires de France, et a déjà publié La différence des sexes à l'épreuve de la République chez Harmattan. Donc, petit topo sur le bouquin. Pays d'émergence du phénomène transsexuel au début du XXe siècle, l'Allemagne réunit alors des conditions nécessaires à la mise en pratique des théories du docteur Magnus Hirschfeld sur les intermédiaires sexuels. Après le saccage par les nazis de l'Institut de sexologie, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, il y avait un super film là-dessus qui passait plusieurs fois à la télé. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était justement un film sur le docteur Magnus Hirschfeld qui était vraiment bien. Et donc, bon, je continue. Donc, après le saccage par les nazis... Non, mais j'y pense, parce que... je sais pas si vous l'avez vu, mais il est passé plein de fois à la télé. La France, donc, prend le relais en Europe. L'artiste Michel-Marie Poulain raconte son changement de sexe dans Voilà. Et la déportée Marie-Andrée Schwindelhammer crée la première structure d'aide aux transsexuels. Ces deux pionnières posent ainsi les jalons d'une visibilité sociale qui atteint son apogée avec la culture cabaret transgenre à Paris dans les années 50-60, lorsque les Français découvrent la scandaleuse coccinelle, coccinelle, feu coccinelle dont on parlait tout à l'heure. Cependant, même après la libération sexuelle, les pouvoirs judiciaires, policiers et psychiatriques mettent en place une répression en vue d'empêcher les transsexuels de changer d'état civil et de faire leur transition dans de bonnes conditions. Les années 80 sont marquées par la figure du pasteur Doucet, qui, avec son centre du Christ libérateur, œuvre à la politisation de la question transsexuelle. Son assassinat en 1990 entraîna la création d'un tissu associatif rassemblant transgenres, transsexuels, dans la lutte pour la reconnaissance de leur dignité. Donc voilà un petit pitch sur le bouquin Histoire des transsexuels, donc aux éditions H&O. J'imagine que vous allez trouver ça dans toute bonne librairie et surtout dans nos librairies AP Day, genre
la bouche, dans LGBT.
Voilà, exactement. Maintenant, veuillez, roulement de tambour. Ladies and gentlemen, now the only, the one, Camille Barré. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Bonsoir Majesteil.
Vous allez bien?
Très très bien. Alors, tu nous as fait la gentillesse de revenir nous voir. Alors, c'est que tu es d'une habituée maintenant, si tu es venu 2-3 fois déjà. Et en fait, tu nous avais souvent parlé de petits points chauds de l'actualité du moment. Et en fait, on ne s'est jamais trop attardé sur ton parcours, sur qui tu es. Et donc, bah voilà, donc en fait, justement, on est là. Et maintenant, tu es un peu sur le divan, Camille. Raconte-nous ta life. En fait, bah, en gros, tout simplement.
Sois un peu plus précis, parce que alors, si je commence à te raconter ma vie.
Il était une fois, il y a 3
mois. Voilà. Camille avait alors encore 5 ans. Bon, voilà, tu vois, ça peut être très long.
Petite Camille Barré.
Très petite.
Qui était la petite Camille Barré?
La petite Camille Barré, c'était très simple. Très petite, elle ne se disait pas je suis une fille. Non, je disais plutôt je suis plus. C'est-à-dire que j'avais conscience que j'avais que j'étais de sexe mâle, mais évidemment, mon identité s'est développée plutôt dans une identité de fille. Mais je n'ai pas pu, l'exprimer d'une façon très claire. Donc, comme pour un certain nombre de personnes qui refoulent ce genre de choses, et bien évidemment, c'était du travestissement enfantin et après adolescent, évidemment, en cachette. Hein. Et puis j'avais la chance d'habiter dans une école de filles, puisque ma mère était concierge et il y avait un vestiaire de filles, donc c'était épatant. Donc c'était vraiment pas très difficile pour moi de me faire belle, donc.
De te faire toute belle. Mais c'est génial. Donc, tu faut aller dans les placards, tu
joues une robe. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y avait une troupe de théâtre donc dans cette école, puisque c'était une école.
Non seulement c'était des vêtements de femmes, mais c'était des filles, mais c'était
de petites filles,
de princesses.
Voilà, exactement. Donc, t'imagines un peu le pied, quoi. Et mon frère, évidemment, était le prince charmant.
Oh, comme voilà. C'est cute. Et donc, comment ça s'est... J'imagine, il y a un moment où ta famille a commencé à se dire, mais pourquoi le petit...
J'étais vraiment dans le maquis, rien ne dépassait vraiment, c'était terrible. Parce qu'en plus, ce qui était très compliqué pour moi, contrairement à un certain nombre de trans, c'est-à-dire que j'étais plutôt attiré par les filles. Donc pour moi, je vivais ça un peu comme une monstruosité. Et j'ai traîné ça très longtemps. Imagine un petit peu à l'adolescence, quand ton corps commence. Alors quand tu es enfant, ça reste supportable parce qu'au fond, un petit garçon, une petite fille de 10 ans, mis à part la zigounette, honnêtement, si tu laisses pousser les cheveux, etc., il n'y a pas énormément de différence physique.
Mais avec l'adolescence,
L'adolescence, c'est terrible. Même si j'étais gracile, même si j'étais longiligne, bon, tu commences à avoir un système hormonal qui tourne à fond. Mm. Tu as une pilosité, ça ne se voit plus aujourd'hui, mais tu vois, toi à côté, tu es une jeune fille. Moi, j'étais vraiment barbe bleue, quoi, tu vois. Au Karcher, tout ce que tu veux. Tiens, c'est un mot à la mode en ce moment.
Justement. Le Karcher.
C'était extrêmement pénible parce que j'étais amoureuse donc de filles et comment dire à ces filles, je ne pouvais donc engager aucune relation amoureuse. Comment leur dire, mais écoute, je suis comme toi. C'était terrible. En plus, confondant le genre, ou ignorant plus exactement, ignorant ce qu'était le genre.
Parce que j'imagine que c'est toute une découverte.
C'est très tardif. En plus, moi, je suis élue d'un milieu extrêmement populaire, donc ce genre de choses. Mais c'est vrai quand même, il y a très 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 longtemps, il y avait une émission, c'était, alors je ne sais plus, avec une musique extrêmement dramatique. J'ai vu qu'il y avait quand même une porte de sortie. On devait parler à ce moment-là. Vraisemblablement de ce pilote d'avion George Eisen qui est devenu madame.
Ah.
Et je me suis dit, tiens, il y a une possibilité de m'en sortir. Mais c'était quand même très éloigné, c'était pas dans ma vie. Et puis au fil, j'ai essayé de m'insérer au fond comme n'importe quelle personne hétéro de base. Et les filles avec qui j'étais le savaient. Elles le sentaient, elles savaient bien qu'elles n'avaient pas affaire à un monsieur qui allait leur demander d'avoir des enfants. Et tout ça, ça parasitait donc mes relations amoureuses.
Le désir d'enfant était inexistant à l'époque aujourd'hui ?
Non. Moi, j'ai un désir d'enfant, mais d'adopter, mais j'ai pas un désir.
Oui, il n'est pas de procréer, quoi.
À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu cette chance de ne pas tomber là-dedans. Hein. C'est-à-dire que la frustration, le refoulement, c'est une chose. Mais non, il n'était absolument pas question. J'ai vécu pendant 11 ans avec une personne que j'ai aimée perdument, que j'aime toujours. Sur ce plan-là, bon, déjà, c'était pas
11 ans, c'était avant. Enfin, c'était.
Non, c'était avant.
Avant.
C'est avant, parce que moi, j'ai commencé mon parcours J'ai commencé mon parcours à l'âge de 33 ans. C'est-à-dire que pour moi, j'étais dans une espèce de survie. Je me dis, mais là, je vais dans le mur, je vais en crever, quoi. Et à un moment donné, si tu veux, ma partenaire de l'époque. Elle savait très bien qui j'étais et assez régulièrement elle me disait mais tu n'iras pas jusqu'au bout, tu n'iras pas jusqu'au bout. Et à un moment donné, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux pas rester si tu es vraiment dans un parcours de femme. Tu peux pas rester dans l'entre-deux, tu vois, c'est pas possible. Et puis en plus, il y a eu vraiment un déclencheur dans un magazine People. J'ai vu, avec tout le respect que je peux vous porter à qui que ce soit, mais j'ai vu des bons travestis de base, tu sais, les mecs qui se déguisent. Et là, je me dis, mais non, c'est pas moi, c'est pas possible. Donc maintenant, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Et puis, j'ai initié ce parcours. Donc, j'ai cherché des associations. Donc, il y a eu rupture dans ma relation avec cette femme que j'ai aimée, comme je le dis.
Elle vivait la relation comment ? Elle considérait qu'elle était avec un homme, ou c'était tout simplement
je crois que de toute façon, c'est pas un hasard si elle est venue me voir. C'est-à-dire qu'elle aurait vraiment cherché un mec brut de pomme, sévèrement burné. C'est pas moi. J'ai pas vraiment changé, j'ai simplement un peu plus de poitrine et un peu moins de barbe, hein, c'est tout. Donc, et puis je suis plutôt en équilibre sur des escarpins et je porte moins de caterpillar. Non, je pense qu'elle elle savait à qui elle avait affaire. Mais si tu veux, les êtres aussi parfois ont des amours qui sont leurs mains. les amours qui sont à ta main ne te rapportent le plus souvent rien. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de jeu de rôle. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sincérité dans la relation. Mais c'est plutôt du formatage culturel hein, pour correspondre à une norme qu'autre chose. Moi, j'aime, et après, évidemment, c'est curieux de dire ça, mais il est possible qu'un jour, je tombe sur un mec super, tu vois, et que...
Donc c'est finalement le genre n'est pas
alors je préfère quand même plutôt les nanas quoi. Si tu veux les poils sur les jambes, faudra que le mec soit imberbe. Bon écoute mon chéri, tu mets une petite jupe et une perruque parce que sinon
ça va pas faire. Hein.
Non je déconne mais voilà quoi.
On a au téléphone. En plus c'est grâce à toi que je l'ai. Alors bonsoir. Allô docteur.
Oui bonsoir.
Oui bonsoir docteur Cordier. Et en fait donc c'est
Camille Barré.
Bonsoir Barré qui est avec nous. Alors nous devions avoir aussi Pascal Aubi, mais qui, pour des raisons de bon problème de mail, n'a pas voulu venir à l'émission. Pascal Aubi qui est d'Act Up n'est pas parmi nous, on le regrette, et tant pis. Donc on est ravis de vous avoir parmi nous, docteur, et au professeur, je crois, parce que vous...
Allô ?
Oui, allô, professeur ?
Oui, je vous entends.
Très bien.
On s'interrogeait sur votre titre, monsieur Cordier. Vous êtes docteur, vous êtes professeur ?
Je suis docteur, psychiatre, et j'exerce à l'hôpital Foch à Suresnes.
Parfait. Et en fait, donc, on était donc avec Camille. Camille qui, en fait, m'a donné vos coordonnées à l'hôpital Foch, justement pour avoir souvent dans le discours sur la transsexualité, on interviewe des trans, mais on a rarement aussi l'autre.
La controverse.
On va dire la controverse. C'est pas forcément la controverse, mais on va dire l'envers du décor. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on était très contents de vous avoir parmi nous. Vous m'avez fait parvenir le protocole d'évaluation d'une demande de transformation hormono-chirurgicale qu'on appelle le barbarisme, c'est THC. C'est ça, dans le cadre donc du transsexualisme. Et en fait, au début, je voulais vous poser quelques petites questions. Quand généralement, dans les personnes qui viennent vous voir, je crois que vous insistez bien aussi dans le protocole là-dessus. Quelles sont les premières choses à dire, à faire? Dans quel état sont-elles? Enfin, comment se passe un premier entretien avec une personne qui souhaite faire un parcours
Alors, nous, on reçoit dans l'équipe à laquelle j'appartiens, d'abord on est 3 ou même 4 psychiatres, et on reçoit toutes sortes de personnes qui souffrent par rapport à leur genre. Elles ont eu notre adresse, ou des médecins qui les soignent, qui les connaissent, leur ont donné notre adresse, et donc on voit arriver des gens qui sont à des étapes très variées de parcours. J'ai vu déjà des candidats ou candidates qui ne sont même pas majeurs, 17 ans, 18 ans, et puis j'en ai un ou deux qui ont dépassé les 60 ans.
D'accord.
Donc c'est l'étape à laquelle on intervient est très différente, et les motivations également. Donc c'est tout ça qu'on va évaluer, et ce protocole dont vous avez parlé n'est pas un protocole au sens d'une convention légale.
Oui, vous le précisez bien à l'intérieur, ça n'a aucune valeur, voilà. On va dire aucune valeur légale.
Absolument.
Ce n'est juste qu'à titre, on va dire, indicatif.
Alors ceci pour souligner que les pouvoirs publics n'ont pas pris de position sur ce problème, et nous intervenons simplement parce que nous sommes un groupe pluridisciplinaire qui a établi depuis 20 ans des règles de conduite en accord avec les autorités concernées.
Mais, d'ailleurs semble reconnu par la sécurité sociale et les tribunaux.
Oui, c'est reconnu, mais et encore une fois, il n'y a pas de texte.
Oui, c'est à titre consultatif.
Voilà, je peux vous annoncer que la haute autorité de santé, l'HAS,
oui,
qui découle directement du
ministère de la Santé,
est en train de travailler sur cette question et nous a demandé de venir à une réunion prochainement.
D'accord.
Donc les choses bougent.
Très bien.
Et je vous en donne la primeur.
Ah bah écoutez, merci beaucoup. Monsieur Cordier, les choses bougent chez Camille à l'appareil. Les choses bougent dans quel sens? Dans un sens toujours plus rétrograde, comme certaines personnes prétendent que vous menez vos expertises, ou plutôt d'une façon plus ouverte qui prennent en compte Évidemment, les personnes qui sont parcours trans, mais au-delà de, d'un problème de, d'intervention chirurgicale, parce que je crois qu'aussi, il y a des gens à qui ça peut s'adresser, hein, votre parcours, j'étais cette candidate, mais d'autres qui ne tiennent absolument pas, et au fond, ce qu'elles ont dans leur petite culotte ne regarde qu'elles. Et pourtant, ça ne remet pas en cause le fait qu'elles soient des femmes. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Je veux dire, il y avait c'était un confort esthétique et physique pour moi. Mais entre le fait d'avoir une verge de 15 cm et de ne plus l'avoir, au fond, j'étais exactement la même. Donc, à un moment donné, il faudrait être un peu moins raide là-dessus. Et il va falloir vraiment que ça évolue, quoi. Vraiment.
Oui. Alors, les pouvoirs publics vont se mêler un peu de cette question qui passionne beaucoup de monde. Je voudrais quand même préciser que je suis à l'interface, à la position à laquelle je suis, c'est à l'interface entre un monde de la psychiatrie qui pour beaucoup conteste ce que nous faisons, et à l'autre face, il y a des demandeurs qui ne comprennent pas que leurs demandes ne soient pas prises en compte. Donc c'est, je l'assume, mais c'est une position qui m'expose.
Ben justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer
à des qualificatifs comme celui de rétrograde.
Oui, non, mais ça, je sais. Je l'assume. Écoutez, en tout cas, enfin, c'est l'opinion de Camille qui peut être compréhensible. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment, en fait, à cette façon, de façon simple, comment vous, justement, quand vous avez un de ces candidats à une THC, transformation hormonochirurgicale, comment ça se passe? Est-ce que quels sont justement les obstacles? Quels sont quel est le but vraiment recherché? Et en fait, bon, pour pas, parce que c'est vrai qu'on peut voir ça, on peut vous voir un petit peu comme une espèce de censeur qui est là pour psychiatriser la transsexualité
et fabriquer de la norme, donc.
Et donc fabriquer de la norme.
Alors nous, moi je dirais plutôt que je dépsychiatrise, puisque un des premiers rôles que nous avons, c'est de repérer parmi les gens qui sont en dysphorie de genre, c'est-à-dire en mal-être par rapport à leur genre, ceux qui auraient des troubles mentaux qui donnent ce mal-être. Donc il faut d'abord repérer parmi les gens qui viennent nous voir ceux qui sont animés par des troubles beaucoup plus profonds, si c'est possible, que le genre. Et ça existe dans le cas de la schizophrénie, par exemple. Donc c'est la première fonction. Maintenant, pourquoi est-ce que des psychiatres sont mêlés à la suite? Parce que j'ai deux raisons à invoquer. D'abord que la communauté médicale a établi une classification qui est internationale, qui est éditée par l'OMS, et c'est bien dans le cadre de la psychiatrie qu'il y a les troubles de l'identité de genre. Ce n'est pas dans dans l'endocrinologie ou dans toute autre spécialité.
Oui, comme était l'homosexualité il y a quelques décennies aussi.
Ça, il y a longtemps. Ça a été radié il y a plus de 20 ans. Hein. Donc, je parle d'une classification actuelle, la 10e classification qui a à peu près 5 ans et qui comporte un chapitre là-dessus.
Bon, après, toutes les choses évoluent et...
Oui, ça ne veut pas dire que c'est
dans cette dynamique.
Une maladie mentale, ça veut dire que ça rentre pour le moment
faute de toute autre classification, voilà. Par...
Non, mais il se peut. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que dans l'avenir, on découvre ce qu'on n'a pas encore pu faire. On découvre une cause en partie biologique de ce problème et ça sortira de la psychiatrie, sauf pour la mission dont je vous ai parlé, qui est bien sûr d'éviter que des personnes chez qui ce problème cache des problèmes beaucoup plus graves qui sont sous-jacents s'engagent dans une trajectoire qui pourrait être catastrophique.
D'accord. Enfin, en l'occurrence, donc la dysphorie de genre, avant de... Ouais, chose qui siffle dans le studio, c'est pas grave. Excusez-moi. La dysphorie de genre, on va dire de façon subjective, parce que outre la classification actuelle, n'est pas considérée par le corps médical comme une maladie mentale.
Elle rentre dans cette classification, mais elle ne rentre pas. Et d'ailleurs, les psychiatres sont bien embêtés quand ils reçoivent des gens qui ont ce type de problème. Ils nous les envoient parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a aucune formation là-dessus.
D'accord.
Je veux dire, et certains se permettent de dire et d'écrire que ce que nous faisons est condamnable. Donc je suis, j'essaie de montrer que la position à laquelle...
Notamment de vos confrères, d'ailleurs, me semble-t-il.
Comment ?
Notamment de vos confrères.
Mais c'est ce que je dis. Mm-hmm. Il y a des psychiatres qui considèrent que nous délirons avec nos patients.
C'est-à-dire que vous rentrez dans leur jeu et que...
Je ne sais pas, enfin, ils ont, enfin, comme ils n'ont pas d'autres propositions à faire ni d'autres explications, ils vont dire que c'est un délire.
D'accord.
C'est ce que fait une certaine école de la psychiatrie, mais une certaine école seulement. Ce dont je vous ai parlé, c'est une classification admise par la communauté entière. Donc ça,
Oui, et puis il y a peut-être aussi un peu de jalousie derrière ça, vous le savez très bien, puisque...
Non, parce que je ne pense pas que ça soit... Vous savez, ce n'est pas enviable ce que nous faisons. Je vais vous dire, on est conscient qu'il y a beaucoup de souffrance autour des personnes qui viennent nous voir, et nous sommes... Encore une fois, à l'interface avec les autorités, avec moi, je travaille dans un hôpital où ce que je fais là est toléré. Je n'ai pas été embauché à l'hôpital Foch pour faire cela, donc je le fais en plus. Et je peux vous dire que c'est pas enviable, c'est pas le mot. C'est intéressant. Je le dis vraiment en toute sincérité. C'est un grand intérêt pour la connaissance du genre dans l'espèce humaine, parce que c'est toujours par des anomalies telles que celles que nous écrivons là, qu'on a pu progresser sur la connaissance de nos différences.
Donc l'anomalie est une différence.
Mais l'anomalie, c'est à partir du moment où...
Pour moi, l'anomalie, elle vient du fait que quelqu'un est en souffrance par rapport à son sexe physique et génétique, et ce, depuis l'enfance. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose qui, d'un seul coup, a saisi son esprit. C'est une longue trajectoire pénible de ne jamais être là où on vous attend et d'être entre deux chaises. Donc c'est ça, je considère quand même que ça doit s'appeler une anomalie. Parce que c'est pas seulement une souffrance par rapport à la rigidité sociale, par rapport au genre. Hein. C'est une souffrance personnelle, un refus de son corps, un dégoût de son corps. Et ça, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est simplement une différence.
C'est une souffrance, oui.
Oui, mais vous savez très bien que cette souffrance, elle est aussi exacerbée par le milieu dans lequel nous vivons, socioculturel. C'est-à-dire que si on était moins dans des différences marquées culturellement, on pourrait peut-être trouver des passerelles, et c'est bien ce que demandent aussi certaines trans, qui ne se considèrent pas comme transsexuelles, peut-être plus comme transgenres, etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que nous parlions ensemble. Parce que vous arrogez le pouvoir de décider, et moi je vous remercie parce que je suis passé entre vos mains, et comme je vous l'avais déjà dit quand vous me suiviez en consultation, quand on m'a parlé de vous, on m'a dit c'est le méchant, faut surtout pas aller le voir, et moi j'ai dit le méchant, je vais aller le voir, je vais le convaincre qu'il se trompe.
Le méchant nous a fait la gentillesse de venir nous parler.
Mais bien sûr, mais moi je respecte en même temps monsieur Cordier, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de points, on peut aussi se retrouver sur certaines choses, mais globalement il faut quand même évoluer sur cette démarche, quoi.
Je crois qu'en l'occurrence, tu développes un point qui ne relève pas du professeur Cordier, qui est tout simplement du fait que dans la société dans laquelle on vit.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand on parle de dépsychiatrisation, moi quand je dis dépsychiatrisation, c'est pas d'interdire aux psychiatres de suivre des trans, c'est simplement dire de changer le regard et d'arrêter de pathologiser une problématique. Il y a en effet des personnes qui font des parcours trans, mais comme des gens qui font des parcours non trans, qui ont des problèmes psychologiques, voire plus. Mais c'est là toute la différence. Et à un moment donné, il faudrait que monsieur Cordier et ses collègues évoluent un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que monsieur Cordier, quand même, souvenez-vous, quand je suis venu vous voir la première ou deuxième consultation, vous m'avez dit, vous êtes trop convaincu pour être convaincante. Au final, mon parcours s'est fait dans les délais, on va dire, normaux.
Et
je vous en remercie, je vous l'ai dit. De toute façon, j'ai pas changé de position. Ceci étant, tout le monde n'a pas ma personnalité pour affronter une personne comme vous. C'est vrai que ça a été très dur.
Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une espèce de principe de double peine où on est en souffrance et puis en plus il faut qu'on se remette dans une démarche au-delà de l'opération, etc. Il y a une double peine où non seulement on est dans ce mal-être, mais en plus on a le besoin d'être pris en charge par une structure. Est-ce que la prise en charge d'une structure psychiatrique est nécessaire?
Alors, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le fait qu'il y a des endocrinologues et chirurgiens qui sont concernés.
Bien sûr.
Et ça, ça nous met, nous, psychiatres, dans une situation un peu particulière que je ne connais pas ailleurs, où je suis amené à discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances de décisions à prendre. Et bien sûr que la parole du psychiatre est prépondérante, mais celui qui va prescrire les hormones et celui qui va prendre son bistouri ont une action concrète et irréversible qui, étant en plus pris en charge par la sécurité sociale, nécessite d'avoir la conviction, d'avoir une conviction tous ensemble, c'est pas seulement celle d'un psychiatre qui aurait pu être convaincu, c'est une conviction de l'équipe entière, à l'unanimité, pour que... mais c'est pas un pouvoir, je n'aime pas trop ce mot, parce que je me sens pas du tout détenteur d'un pouvoir, j'essaye d'avoir un petit savoir dans ce domaine, et je vous l'ai dit, la cause est inconnue, on ne sait pas d'où ça vient, et on essaye de mettre en harmonie ce que peut offrir la médecine en dehors de la chirurgie esthétique, parce qu'on n'est pas dans la chirurgie esthétique, ce que peut offrir la médecine avec sa déontologie traditionnelle qui ne sera pas modifiée comme ça
dans les six mois, en
quelques années. C'est quand même un vieux code auquel nous nous fions et qui, pour certains articles, remonte à Hippocrate quand même. C'est une garantie pour les patients aussi qu'on ait ce code. Et par ailleurs, il y a
Tout ça permet de faire prendre conscience aux gens du caractère, du caractère irréversible de la chose. Et donc, en fait, c'est une protection, en fait, pour l'individu.
Si vous voulez, c'est pour ça que j'attends de l'HAS une position claire, parce que ça sera peut-être pour vous plus accessible et pour nous plus. Enfin, moins inconfortable, oui. Parce qu'on saura à ce moment-là qu'est-ce que disent les représentants des pouvoirs publics, des élus, sur cette question.
Moi, j'ai pas le souvenir que notamment le Parti communiste était invité à participer.
Non, mais je pensais à la Chambre des députés là. Hein.
D'accord. Mais évidemment la Chambre des députés. Donc si vous prenez les élus qui sont en place, donc la majorité de droite, vous savez très bien.
Camille, c'est pas vrai. Deux septennats de gauche. Donc on peut pas dire que la situation actuelle.
Non, mais tu m'as pas laissé finir. Si on consulte les gens qui sont en ce moment au gouvernement, ils ne sont pas spécialement favorables. Ils sont pas spécialement favorables à l'égard de toutes les problématiques LGBT, y compris trans. On voit ce qu'ils portent dans leur programme. Moi, je vois simplement ce que le Parti communiste porte dans des motions que j'ai portées et d'autres depuis des années. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi. J'espère, Monsieur Cordier, quand même, que ça dépassera le cadre de ces droites en ce moment.
Mais je ne vois pas quel rapport.
Vous parliez de politiques qui vont amener un discours.
De droite ou de gauche, j'attends depuis des années qu'un pouvoir en place, quel qu'il soit, adopte une attitude claire et ne soit pas simplement contraint par la Cour européenne de passer un arrêt de Cour de cassation comme en 92. On n'a rien fait depuis 92, d'ailleurs,
Vous pouvez nous rappeler, en 92, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
La Cour de cassation a changé sa position, qui était toujours de refuser tout changement d'état civil antérieurement, sauf exception, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce que une personne qui avait changé de genre ne pouvait pas, faute d'état civil en rapport avec son apparence, ne pouvait pas avoir accès à la vie sociale normale.
Vous êtes d'accord que c'est une avancée?
Une atteinte à sa vie privée.
Il y a eu
ces revirements de la Cour de cassation, mais depuis, en dehors de ce que nous avons pu entretenir, nous qui sommes de la seconde génération, parce que les pionniers c'était avant nous, c'était en 1980, eh bien, nous, ce que nous avons pu entretenir, c'est que la sécurité sociale, la caisse nationale, continue à prendre en charge, que le Conseil de l'Ordre ne nous condamne pas.
Ça, d'ailleurs, je vois que ça s'est pris en charge à 100% pour la Sécurité sociale.
Oui. Non, mais vous parlez de vous, Monsieur Cordier, j'entends bien.
Non, mais il parle pas... Non, mais attends.
Non, non, mais quand... Non, pas... non, mais...
Non, Camille, ne faites pas de faux procès, s'il te plaît, laissez-moi terminer.
Monsieur Cordier, vous parlez de garanties qu'on vous offre. Il se trouve... Moi, j'ai aucun problème avec vous, Monsieur Cordier. Je ne suis pas là pour créer de fausses polémiques. Mais il se trouve quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas rentrer dans vos protocoles. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut faire, même ensemble? C'est un appel.
Oui, oui, je l'entends bien. Je laisse toujours ma porte ouverte à ces personnes et j'en revois et je leur laisse entendre que rien n'est définitif. Notre position peut évoluer si on nous en donne, si on nous montre un chemin nouveau qui serait celui...
D'accord. Une volonté politique, en fait.
J'entends ce que vous dites. Alors.
Par exemple, je vois dans le protocole que vous m'avez soumis, c'était qu'en fait, il y avait des clauses d'exclusion, mais j'imagine, oui, c'est vrai que tout protocole scientifique implique de le suivre à la lettre pour pouvoir faire des comparaisons, pour que ce soit un vrai protocole. Et donc, il y a certaines clauses excluantes, comme par exemple, si jamais les gens prennent des traitements d'hormonothérapie parallèle, ou alors l'auto-administration d'hormones.
Non, mais je pense pas qu'on ait le temps de protocole.
Bien sûr, de tout développer point par point.
Je dis tout de suite que c'est faux. Je reçois de plus en plus, d'ailleurs en ce moment, des gens qui ont déjà des hormones et je ne leur ferme pas la porte. Je ne demande pas de les interrompre, sauf au moment où on fera le bilan endocrinien, bien sûr, parce que sinon, il serait faussé. C'est la D'accord. seule chose qu'on demande. On n'est pas, vous savez, enfin, le métier que je fais n'est pas un métier qui est celui d'accentuer le poids de la vie et de la souffrance de chacun. Mais c'est quand même c'est un métier qui est destiné. Ma principale activité, je vais vous dire,
c'est
de soigner les déprimés. Alors, faut pas, je peux pas être tout à l'heure. Je peux pas. Être
à la fois sauveur et bourreau.
Donc vous n'êtes pas un vilain.
Je ne suis pas.
Vous n'êtes pas un vilain.
Mais okay. Ce n'est pas dans ce registre-là que ça se situe.
Non, mais je sais bien.
Hein? Je veux dire qu'il y a des attitudes que j'ai pu adopter et qui ont blessé certains. Je le déplore.
Non, mais je pense
mais,
que.
Mais je suis aussi. J'ai essayé de vous montrer, de vous démontrer que c'est. Que je ne suis pas tout seul dans cette histoire et que mon élan n'est pas du tout animé par un pouvoir quelconque.
Non, mais moi, je sais bien.
Je
pense que vous êtes sincère et vous en avez fait la preuve. Et quand en revenir, vous m'avez. Est-ce que vous avez changé justement? Je suis passé donc. J'étais suivi par vous. Est-ce que vous avez changé notamment parce que dans le protocole. Et je sais bien que vous n'êtes pas psychorigide, il n'y a aucun problème. Mais j'ai été vous voir et c'est vrai que moi, en tant que candidat pour ce parcours. Eh bien, normalement, j'aurais pas dû le faire avec vous, puisque j'avais été marié. Alors, j'avais une grande chance quand même, j'ai pas fait d'enfant. Mais normalement, ça, c'était rédhibitoire.
Non, mais
ça l'est toujours, c'est comment vous avez évolué là-dessus? Est-ce que vous...
Je crois que si
le fait
marié,
d'avoir été marié, c'est une caractéristique de la vie de quelqu'un qui n'interfère pas s'il n'est plus marié au moment où il demande cette transformation. Je veux dire, on peut pas à la fois... moi, je peux pas défendre devant... Encore une fois, je vous le dis, je travaille avec des endocrinologues et des
chirurgiens.
Je ne peux pas défendre que quelqu'un qui n'a pas rompu les liens, des liens civils et même plus que civils avec une personne.
Non, mais là, j'entends bien.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, parfaitement.
Bon, maintenant, quant aux enfants mineurs, c'est un autre sujet et beaucoup plus vaste alors celui-là.
Parce que de toute façon, on peut considérer qu'un enfant mineur, qu'il ait un accompagnement, c'est totalement compréhensible, mais que l'acte chirurgical soit fait à la majorité, c'est...
La majorité de quoi?
La majorité, 18 ans, peut-être bêtement...
Par rapport au fait... Alors,
si jamais un mineur veut changer de sexe...
Non, nous on ne l'a jamais fait avant 21 ans. Hein.
21 ans?
Ouais.
D'accord.
On l'a fait à de nombreuses reprises pour des personnes de 22 ans.
D'accord. Et c'est pourquoi, pour une question, je vais dire une bêtise sûrement, une question de maturité hormonale
Non, ça n'a rien à voir. C'est plus, si vous voulez, notre analyse du risque de changement de changement d'avis.
D'avis, oui, j'imagine.
Je vais vous dire, la puberté, elle prend 4 ou 5 ans. Hein. Là, cette transformation, elle peut pas se faire en urgence, elle peut pas se faire en 6 mois. La nature va plus lentement que cela.
D'accord, évidemment. Je crois qu'il y a Jérôme qui pose une question.
Vous m'entendez ? Vous m'entendez, hein ?
Oui, je vous entends.
Oui, j'aimerais savoir pratiquement comment vous faites pour tester la motivation des gens qui viennent en consultation chez vous. Est-ce que vous les mettez à l'épreuve ? Vous faites
jamais. Les gens pensent que nous faisons. Non, nous avons une règle qui est incontournable, c'est qu'avant 2 ans, on ne peut rien faire d'irréversible. Bon, pendant ces 2 années, il y a des rendez-vous. Bien sûr qu'il y a des gens qui loupent des rendez-vous, mais je sais pas dans le but de créer une épreuve pour tester la motivation, c'est tout simplement parce qu'on peut pas faire autrement. Je peux pas les recevoir une fois par mois, donc on les voit aussi fréquemment possible, mais c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant. Ce n'est pas un suivi psychothérapeutique. Pour répondre à votre question, je pense que de se prêter à ce protocole qui est connu d'emblée maintenant puisqu'il est sur internet.
Vous pouvez donner l'adresse du
où on peut. Je ne la sais pas par cœur.
D'accord. Mais de toute façon, je pense qu'on va la mettre en ligne. Enfin, si ça.
Voilà,
on la mettra en ligne sur le site de DGEL. Comme ça, tout le monde pourra la consulter.
Non, je pense que contrairement à ce que certains m'ont dit, ce n'est pas une épreuve pour tester la motivation. C'est parce que nous avons 2 années à occuper par des investigations diverses, par des entretiens et des tests, voilà, différentes choses. Je pense que les personnes qui se soumettent à tout cela, ils sont motivés, évidemment.
Bien sûr.
Vu la réputation qu'on me donne, venir me voir, il faut déjà être très motivé.
C'est clair, mais des tests de quel ordre ? Parce que moi, voyez-vous, j'ai une copine qui vivait depuis 20 ans. Elle était considérée comme femme, elle vivait 20 ans avec sa tenue de femme, on va dire, hein. Et elle est venue chez vous et ça passait pas bien, donc moi ça me pose un problème. Est-ce que pour une personne qui a 30 et quelques années, qui depuis 20, ou 40 même, qui vit en femme, qui a un métier de femme, etc., si toutefois il y a un métier de femme, est-ce qu'on peut pas faire gagner du temps à cette personne? En plus, la plupart du temps, elle pour certaines, elles sont hormonées, etc. Est-ce que ce délai ne peut pas être écourté?
Alors là, c'est là où je vous dis que j'aimerais bien que l'HAS se prononce, parce que la sécurité sociale, quand nous soumettons les examens que nous faisons, elle sait très bien quand a commencé le suivi, parce qu'elle le rembourse.
D'accord.
Donc si on présentait un cas où il y a 1 an au lieu de 2, il serait demandé pourquoi ça va si vite. Alors, il m'est arrivé de dire, mais parce qu'il y a déjà eu un suivi antérieur et que donc nous pouvons considérer que...
Donc parfois, en fonction des cas, vous vous demandez une précipitation de la conclusion.
Mais je ne l'ai pas obtenu, j'ai obtenu qu'une fois. Hein.
Vous l'avez obtenu une fois. Parce qu'en fait, c'est la sécurité sociale qui bloque.
Ah ben, ils font un travail. Vous savez, on envoie un certificat signé par plusieurs membres de l'équipe.
Oui.
Ensuite, ils nous répondent, et généralement, ils le font assez rapidement, 1 mois ou 2. Mais ils motivent, hein, ils répondent, ayant pris connaissance de là. Et on sent que c'est pas un formulaire. Hein. Ils étudient le dossier à chaque fois. C'est une décision individuelle tant qu'il n'y a pas une nomenclature claire là-dessus.
D'accord. Je peux vous poser une dernière petite question parce que le temps file et mais c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, est-ce que vous faites un suivi après au niveau, parce que je crois qu'il y a toutes des procédures judiciaires à engager après au niveau de l'État pour changer d'état civil. Est-ce que vous faites un soutien ? Et puis aussi, alors j'enchaîne sur ma deuxième question. Est-ce que toujours dans l'idée du soutien, vous continuez un soutien psychologique après l'opération ?
Absolument. C'est quelque chose que je suggère. Je n'obtiens pas toujours une réponse.
Dans mon cas, c'est non, monsieur Cordier.
Ben, je sais. Mais je l'ai toujours proposé à tous ceux que j'ai vus de les revoir, et je le dis en plaisantant, jusqu'à ma retraite. Donc c'est dans de moins en moins longtemps. Mais je suis donc convaincu que après la transformation et après le changement d'état civil, d'autres questions peuvent se poser. Et puis je vous dirais que dans la motivation de cette demande, il y a aussi que j'ai besoin de savoir ce que deviennent les personnes que nous avons.
Bien sûr. Sachez-le, dans mon cas, je vais très très bien.
Bon. Bah, écoutez, on aura au moins permis.
Mais vous savez, tout ça sert aux autres, parce que quand je dois montrer à ces autorités que ce que nous faisons est utile,
a du sens,
et qu'il y a un mieux-être, Il faut bien que je puisse le prouver en disant j'ai revu à 5 ans de distance, à 10 ans de distance, telle ou telle personne, et elle conforte qu'on a bien fait de faire ce qu'on a fait.
D'accord. Donc en fait, c'est une coopération.
Oui, je fais appel un peu à la solidarité.
Une solidarité.
Ça peut servir pour les autres. Mais indépendamment de ça, il y a aussi des histoires avec des adoptions, des histoires avec les SECOS pour les FM. Et donc tout ça, juste bien, je trouve que c'est pas du tout superflu de revenir nous voir.
D'accord. Bah, écoutez, c'est encore un sujet tout entier et qu'on va sûrement traiter dans une prochaine émission parce qu'on peut pas tout faire dans une heure et demie. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur.
Et je vous en prie.
Et c'est que, de nouveau, Camille, vous imaginez que sur un certain nombre de points importants, je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous allons essayer de nous voir pour travailler et faire ensemble que ça évolue. Vous m'avez dit vous-même lors de la dernière consultation que vous m'avez donnée que vous aviez évolué par mon passage.
Eh bien, alors, écoutez...
Alors, continuons.
Ça m'encourage à continuer à essayer de m'adapter à ce monde qui évolue vite.
Ben, écoutez, merci beaucoup, professeur. Très bonne soirée. Merci de nous avoir consacré ce temps. Et tout de suite, on va retrouver un morceau de musique. Frigo, toujours avec Camille. Et nous remercions encore le professeur Cordier d'avoir passé cette grosse dizaine de minutes, ce quart d'heure avec nous. Donc, Camille, tu avais plusieurs choses à nous dire, principalement... Pourquoi ton téléphone a sonné toute la semaine?
C'est-à-dire que j'ai, on va dire, une camarade pour une
copine,
on va dire, en fait simple, qui n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me dire ce que j'ai à dire à Cordier. je n'ai pas envie qu'on continue à me télégoder comme ça. Je suis une grande personne.
À te télégoder?
Voilà. Donc, Sophie, calme-toi. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne fais pas partie encore d'un groupe de pression qui t'appartiendrait pour dire ce que je dois dire à Monsieur Cordier.
Voilà, donc
le message est passé.
Bon, peut-être on n'avait pas abordé toute la partie un petit peu plus activiste. Donc
oui, puis pour finir, je ne représente que moi-même.
Hein. Bah, exactement. Donc tu as été militante pendant longtemps à l'inter-LGBT.
Je suis toujours militante à l'inter-LGBT. Je suis toujours militante au Popinquet. Je fais aussi partie de la coordination Existrans, qui organise notamment cette marche tous les mois d'octobre.
C'était le 1er octobre, je crois, cette année.
Voilà, et puis justement, pour faire écho et porter plus haut ce que nous défendons, eh bien, je suis rentré au Parti communiste il y a un an, qui fait un travail extraordinaire, et je tenais à le souligner, sur tous les sujets LGBT et notamment trans.
Bah, merci beaucoup. Je crois qu'on a un appel en studio. C'est Brigitte ? Génial.
D'accord, donc on va être mis
en
relation.
Alors, nous avons Brigitte Boréal avec nous. Allô, Brigitte.
Allô.
Allô.
Allô, oui.
Oui, Brigitte.
Comment ça va, Brigitte? Donc...
Ça y est, on s'est enfin... Comment ça va, Brigitte?
Ça va, je suis un petit peu décoiffé avec les ventilateurs, mais ça va.
Parce que tu es en plein shooting photo.
Ouais.
Donc, pour nos auditeurs qui ne savent pas qui tu es, Brigitte Boréal est évidemment la célèbre journaliste sportive de Pink. Enfin, ancienne, future, on ne sait pas. Enfin, je crois que tu es en transition vis-à-vis de Pink.
Bah là, on est un peu en stand-by parce que toutes les télés ont fait leur rentrée sur septembre-octobre. Nous, il y a eu un petit peu des choses économiques, des choses un petit peu dans lesquelles, dans le secret des dieux, je ne suis point encore. Et donc, du coup, je pense que la rentrée sur Pink sera un petit peu décalée pour toute une gamme de nouveaux programmes. Et je compte bien à nouveau me différencier dans d'autres mi-temps, d'autres prolongations, si on file la métaphore sportive d'ici quelques mois. Tout ça est en ce moment en gestation et je pense que ça va aboutir.
Très bien. En fait, donc Brigitte, on va revenir aussi sur le fait que tu es principalement invitée dans cette émission parce que dans la question de genre, tu représentes un genre à part entier qui est finalement rarement représenté parce que dont les frontières sont très floues. Tu te qualifierais comment, de troisième genre?
Oui, moi j'utilise le terme de troisième genre parce que je trouve qu'il est plus générique. Généralement, quand on parle de travesti, les gens cataloguent un petit peu, pensent soit travesti occasionnel ou transformisme, un peu comme chez Michou ou d'autres cabarets. Quand on parle de transsexuel, les gens voient plus un côté, quelquefois malheureusement, prostitution, parce que c'est aussi une réalité dans notre monde.
Transsexuel, c'est un terme médical, hein, Brigitte.
Oui, oui, donc ça c'est Camille Barret qui est avec nous.
C'est ce que j'allais dire, c'est soit... Quand on parle, moi j'ai testé ça ça de nombreuses fois, parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis sur Paris et 5 ans que j'ai créé une agence artistique et une société de prod trans, enfin troisième genre, pour garder mon terme fétiche. Et je me suis aperçu que quand on disait transsexuel, malheureusement, les gens partaient soit d'un côté médical, soit d'un côté psychosocial, qui est toujours un peu
en relation. Donc en gros, tout de suite, il y a un problème.
Un peu, quoi. Donc c'est pour ça que moi, troisième genre, je trouve que ça englobe du transsexuel au travesti, en passant par le transformisme, l'androgyne, y compris ce qui est beaucoup plus rare après certains hermaphrodites, etc. Ça englobe vraiment tout le monde et on fait du coup d'une étiquette globale une grande famille que je nomme troisième genre. Mais moi, c'est vrai que si on devait me cataloguer, je serais peut-être plus du côté travesti. Alors du coup, comment on peut dire, je sais pas, travesti permanent, puisque j'ai choisi de vivre en femme.
Travestie permanente.
Oui, permanentée peut-être.
Permanentée.
Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai fait ce choix-là en ne reniant pas ma biologie garçon. Au contraire, des fois je surjoue là-dessus quand je dois faire un reportage, je sais pas, sur le Supercross à Bercy où j'avais fait l'été dernier le football américain à la Courneuve. Comme dit Coluche, un traf qui va à la Courneuve, c'est un peu un crocodile qui rentre dans une maroquinerie. Il faut un petit peu surjouer, rehausser les talons, raccourcir la mini, enfin faire un peu du rentre-dedans, parce qu'on sait que ça va être un combat. Dans le monde sportif, il y a quand même pas mal de machos, donc après...
Puis beaucoup d'homophobie, j'ose pas imaginer la transphobie.
C'est un mélange, finalement, quand on montre qu'on connaît les codes sportifs aussi, par le langage, par pas mal de petites choses comme ça, les gens sont un peu désarçonnés parce qu'ils nous voient différentes, et en même temps...
Ils se disent, mais merde, il s'y connaît réellement, c'est un vrai, quoi, c'est un pro. Il faudrait rappeler que tu as été journaliste sportive à Libé et
À Libé, à l'événement du jeudi, j'étais plus dans le côté social, j'allais dire société, justice, etc. J'ai un peu pigé à l'équipe. Donc du coup, depuis que je fais les sports à Pink, on m'a un peu classé journaliste sportive. Mais auparavant, j'étais plutôt domaine justice, société, etc. Quoi.
Donc, d'accord.
C'était un genre beaucoup plus large. Disons. Et du coup, là, depuis 5 ans à peu près, j'ai fait mon coming out, je dirais, aux alentours de 2000 à peu près. Et puis avec Pink, évidemment, ça a pris une ampleur un petit peu plus importante. Mais là, j'ai décidé vraiment d'arrêter les transformations, j'allais dire clandestines, entre guillemets.
Alors qu'est-ce qui était clandestin? De redevenir un homme ou de redevenir d'être troisième genre?
D'être dans mon enveloppe féminine, bien que c'est ce que je disais au départ, j'ai une origine masculine, je peux pas le renier, puisque biologiquement, je suis né garçon. Mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir, on va pas parler de sexe psychologique ou physique, parce que ça c'est un vieux débat, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir un petit peu une espèce de va-et-vient comme ça qui me faisait plus pencher du côté féminin.
Tu veux dire que dans les mammifères, t'es ou mâle ou femelle? Parce que le genre, tu sais très bien que ça dépasse de loin le cadre biologique.
Oui, mais on a toutes et tous une trajectoire où on se sent, je pense, plus femelle que mâle ou inversement. Et du coup, après, certaines,
c'est pas attaché à une biologie ou au fait d'avoir une zigounette. Hein,
non,
tu peux être t'es terriblement femme. Hein, ce qui gêne chez les mecs, c'est pas leur queue. On sait très bien, c'est ce qu'il y a autour quand c'est gênant. Hein, on est d'accord. C'est pas la condition sine qua non pour être une femme. On est d'accord là-dessus aussi.
Hein, je pense que le genre est plus... Dans la société humaine, en fait, le vecteur relationnel de base, il est défini par le genre. Quoi. Masculin ou féminin, c'est déterminant dans la façon d'aborder les choses, les gens. Et du coup, il faut obligatoirement qu'on soit homme ou femme. Et,
Donc en fait, il y a une dichotomie complète entre le sexe de naissance, le genre, et même de la sexualité. Mais ça, c'est encore autre chose.
Oui, mais du coup, pour les gens comme moi qui revendiquent un petit peu des deux, puisque j'ai du mal à couper sans mauvais jeu de mots d'un côté ou de l'autre, donc du coup,
tu énerves parce que tu n'es pas mis dans une petite case.
On est forcément dans un mauvais genre, si je peux dire sans.
Mais tu sais, Brigitte, moi j'ai plus mon dériveur et au fond, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je me revendique femme, mais je peux être très butch aussi, quoi. Je veux dire, moi quand un type, je me nomme, je suis une sissy butch, c'est-à-dire que quand je veux être femme, je suis femme, mais quand un mec me fait chier, je vais pas faire la pauvre victime. Et puis si je peux lui foutre un coup de sein ou un coup de boule, c'est voilà quoi. S'il m'emmerde, c'est ça.
C'est pour ça
et ça remet pas en cause notre féminité, tu es d'accord?
Non, non, non. c'est ce que je dis, mais c'est plus difficile, je conçois, qu'au niveau de la société, on fiche un peu la zizanie. Moi, si je garde le sport, on m'a souvent dit, mais alors oui, mais les trans, est-ce qu'il faut qu'on fasse une catégorie à part, parce que dans les compétitions sportives...
Il y a beaucoup d'associations sportives gays qui finalement sont mixtes. Et alors, on a des équipes mixtes qui jouent contre d'autres équipes mixtes.
Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, on est un peu trait d'union, finalement. Oui. C'est, moi, c'est ce côté trait d'union que j'aime bien, ce côté passerelle, un peu entre les deux sexes de base. Mais je conçois que pour certaines personnes, alors après, les réactions sont plus ou moins agressives ou complices. Moi, il y a beaucoup de gens, ça m'a étonné, qui sont venus spontanément vers moi en me disant mais comment, quand j'avais pris l'avion pour faire un truc sur les Gay Games à Chicago, idem à Montréal, et du coup, les gens venaient et me demandaient, dès que je rentrais dans l'avion avec le blouson Pink TV et le cameraman qui m'accompagnait, les gens étaient vraiment avides de savoir qu'un trans ou assimilé faisait à Pink TV, qui était quand même une télé gay. C'est quand même la même chose, homo. Alors après, une fois qu'on explique que la tolérance et les différences, c'est très très relatif et tout, on sent qu'il y a un désir d'aller vers l'autre. Mais ce désir, il est quand même précédé, quand j'attends l'avion à Roissy, de regard biaisé et qui change une fois que la caméra arrive. Mais autrement, autrement on est quand même catalogué prostitution, quoi. Il n'y a rien à faire là-dessus, on n'a pas besoin d'entendre
très, très rapidement, parce que là on est bouffé par le temps, il nous reste 30 secondes, même pas une minute. Est-ce que tu as 15 secondes pour nous faire partager ton actualité, et ensuite j'ai 15 secondes avec Camille qui doit nous parler des Popping Gays, et donc je t'en prie, Brigitte.
Alors très très vite, moi je suis en train d'écrire un bouquin que j'espère terminer pour fin 2007, et de préparer deux ou trois petites choses à la fois en radio et en télévision avec mon groupe. On a appelé ce groupe BC3G, bon chic troisième genre. En gros, si tu veux, ça se situerait entre ce que faisait Benny Hill et les nuls première période. Donc beaucoup d'autodérision, des choses un petit peu parodies, etc. Mais des choses aussi émouvantes et originales qu'on travaille nous. Alors,